Bonjour. Mais je crois que c'est déjà dit bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oh, oui. Oui.
Très bien. Merci pour votre invitation. En même temps, vous ne savez pas à quel risque vous vous exposez. Je vous encourage, en tout cas, comme Paul le disait aux Thessaloniciens, à analyser toute chose et à retenir ce qui est bon. C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous nous penchions sur un personnage de la Bible. Il va falloir trouver lequel. Une personne plutôt connue, mais dont on ne parle pas souvent, ou sûrement pas assez, en tout cas d'après moi. Je vous aide un peu, c'est un Jean. Il y en a plusieurs des Jean dans la Bible, d'ailleurs dans le passage que tu as lu, il était question d'un Jean, frère de Jacques. Jean est la forme anglaise de Johannes, la forme latine du nom grec Johannes aussi, est dérivée du nom hébreu Yoshanan, qui signifie Yahvé est gracieux. Joli prénom. Parmi les juifs palestiniens, ce nom était l'un des plus populaires, même à l'époque de Jésus. En Europe, le nom John, c'est mon surnom d'ailleurs si vous ne le savez pas, était initialement plus courant chez les chrétiens d'Orient, dans l'Empire byzantin, mais il a prospéré en Europe occidentale après la première croisade. En Angleterre, il est devenu extrêmement populaire. Au cours du Moyen-Âge tardif, il a été donné à environ 1/5 de tous les garçons anglais. Donc ça fait beaucoup de jeunes, de gens. Et bien que ce prénom était populaire, le Nouveau Testament ne mentionne que 5 gens différents. Mais c'est déjà beaucoup, si on regarde. En tête de liste, Jean-Baptiste, fils de Zacharie. Et oui, il apparaît au début de chacun des 4 évangiles, par exemple dans Matthieu 3, verset 1. Il y a aussi Jean, fils de Zébédée, qui était l'un des 12 apôtres, avec son frère Jacques. Ce Jean est fréquemment mentionné dans les évangiles, mais toujours à une exception près, en compagnie de son frère Jacques. Comme mes deux fils, Simon et Zacharie, sont toujours ensemble quasiment. Non, je dis ça pour les réveiller. Et ils sont aussi avec Pierre, par exemple Matthieu 4, verset 21. Il y a aussi le père des apôtres, Simon, Pierre et André. Il était également connu sous le nom de Jean, ou alors des fois c'est plutôt marqué Jonas. Jean 21, verset 15, par exemple. Et là, si vous ne connaissez pas, il existe une BD qui s'appelle Le Voyage des Pères. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça raconte justement l'histoire d'un point de vue différent, et notamment ce Jonas a une part importante dans cette bande dessinée qui est très humoristique. Moi, j'aime bien. Voilà. Coupu. Il y a aussi un membre du conseil juif, acte 4, verset 6, c'est aussi un Jean. Et enfin, il y a le neveu de Barnabas, qui était aussi appelé Marc ou Jean-Marc, acte 12, verset 12. Celui-ci a d'ailleurs été à l'origine d'un vif désaccord entre Paul et Barnabas. Alors, d'après vous, de quel Jean il s'agit? Vous avez une chance sur 5.
Le dernier, peut-être.
Le dernier, peut-être. Il est intéressant de noter déjà que c'est Dieu qui choisit le prénom de Jean, dit Jean-Baptiste. Son prophète qui proclamera la venue du Christ. Première chose importante. Le disciple Jean, lui, a aussi la particularité d'être le disciple que Jésus aimait. Ou appelé aussi le bien-aimé. Petite remarque, je ne pense pas, moi, que Jésus n'aimait pas les autres. Mais ce détail pose question. Est-ce que Jésus aimait moins les autres disciples, plus celui-là? Pourquoi est-ce que lui est mentionné comme ça? Et Judas, par exemple, sachant qu'il allait le trahir, est-ce que Jésus l'aimait moins? Le disciple bien-aimé n'est présent que dans le 4e évangile, celui de Jean, justement. Il apparaît 6 fois sous cette appellation, au tout dernier moment de la vie de Jésus et après la résurrection. Donc c'est lors de la scène où il est sur la poitrine de Jésus et lui demande qui va trahir. C'est aussi ce Jean-là qui est au pied de la croix où Jésus lui dit que Marie est sa mère et sa mère à lui et vice-versa. Au tombeau où il est le premier arrivé en courant plus vite que Pierre. Au bord du lac où il est le premier à reconnaître Jésus. Puis tout de suite après, Pierre s'inquiète de son avenir à ce Jean-là et la réponse de Jésus fait courir le bruit que ce disciple ne devait pas mourir. C'est enfin ce même disciple qui témoigne de ces choses, je cite, et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jean 21, verset 24. Donc tout à la fin de l'évangile de Jean. Et cette phrase a créé bien des interrogations, car l'évangéliste ne dit jamais que Jean, le fils de Zébédée, est ce disciple bien-aimé. Petit flou dans la Bible. Encore aujourd'hui, tout le monde n'est pas d'accord de dire qu'il s'agit du même Jean ou de deux Jean différents, l'apôtre et ou l'évangéliste. Irénée est le premier à avoir affirmé dès le IIe siècle, donc sans doute sur la base d'une tradition orale, c'est ce qui se faisait à l'époque, hein, que le disciple bien-aimé, donc Jean l'apôtre et Jean l'évangéliste, ne faisaient qu'une seule et même personne. La tradition a conservé cette affirmation, même si, d'après un commentaire de Lacroix que j'ai lu de décembre 2017, on sait aujourd'hui que l'apôtre Jean et l'évangéliste Jean sont très vraisemblablement à dissocier. Mais une chose est sûre, c'est que ce disciple se sait aimé. Et quelque part, moi, c'est un peu tout ce que je retiens. Mais c'est ça qui est important, je trouve. Le disciple se sait aimé. Toujours d'après le commentaire de Lacroix, dans l'évangile de Jean, la place du disciple bien-aimé est comme laissée vide par le narrateur pour que nous puissions tous l'occuper. Je trouve ça intéressant, en relisant l'évangile de Jean, de se dire bah, c'est fait exprès en fait pour qu'on puisse tous se mettre à la place de ce disciple que Jésus aime. Ce savoir aimer. Et c'est là que nous trouvons notre identité de fils et de fille adoptée de Dieu. Aimé de notre Père Céleste, de notre frère Jésus-Christ et du Saint-Esprit, Dieu vivant en nous. Se savoir aimer et répondre à cet amour en retour, et pour moi c'est ça la vie chrétienne. Je crois que je vous avais déjà parlé la dernière fois que j'étais là. Mais en fait, c'est pas de ce genre-là dont je voulais parler ce matin, mais je trouvais ce commentaire intéressant et un des points fondamentaux de répondre à cet amour. C'est la vie de Jean-Baptiste qui m'avait interpellé quand j'ai lu un commentaire biblique sur lui. C'était aussi quelques temps avant un culte de baptême que nous avons vécu à Ingersoll le 3 mars 2024. Jean-Baptiste est certainement un personnage bien connu des chrétiens. On sait que c'est lui qui annonce Jésus-Christ, qui l'a baptisé. On sait aussi qu'il a eu une fin tragique et injuste. Mais qu'est-ce que sa vie peut nous apprendre aujourd'hui ? Ce matin, je vous propose quelques pistes de réflexion autour de la vie de Jean-Baptiste. Son nom implique qu'il baptisait des gens, bien sûr. Et c'est bien sûr ce qu'il faisait effectivement. Mais la vie de Jean ne se limitait pas à cette activité. La vie adulte de Jean s'est caractérisée par une dévotion, un attachement, une soumission à Jésus-Christ très forte. Il est dit dans Jean 1, verset 23, « La voix de Jean était la voix de celui qui crie dans le désert. » J'aurais pu dire ça en criant, mais je ne peux pas... Et donc le 1, Jean, quand on lit ça dans Jean 1, 23, c'est pas le même Jean, on est d'accord ? Vous me suivez ? Jean-Baptiste, donc, lui proclamait la venue du Messie à un peuple qui avait désespérément besoin d'un sauveur. Vous vous rappelez, les Juifs étaient dominés par les Romains sur leur propre terre. Ils aspiraient à être débarrassés de l'envahisseur, à ses impôts, de ses soldats, etc. Jean était le précurseur de l'évangéliste moderne. L'évangéliste, c'est celui qui proclame l'évangile, qui prêche, qui témoigne de sa foi en Christ, etc. À ne pas confondre avec l'évangélique, qui est une personne de religion évangélique. On parle parfois même de protestantisme évangélique. Mais du coup, un évangélique est ou devrait être évangéliste, non ? J'ai perdu tout le monde. C'est pour marquer la différence, parce qu'on entend souvent dans les médias parler des évangélistes, alors que c'est des évangéliques. Bon, bref. Donc Jean était le précurseur de l'évangéliste moderne, parce qu'il proclamait, sans aucune honte d'ailleurs, le message de Jésus-Christ qui vient. C'était un homme de foi, et un modèle pour ceux qui souhaitent partager leur foi à d'autres. Même si la méthode n'est peut-être plus la même aujourd'hui, quelle foi et quelle motivation avons-nous, nous, pour parler de Jésus-Christ autour de nous? La plupart des gens, croyants ou non, ont entendu d'ailleurs parler de Jean-Baptiste. L'islam le considère aussi comme un prophète. Et si Jean est connu sous le nom de Baptiste, il était en fait le premier prophète suscité par Dieu depuis Malachie, quelques 400 ans auparavant. La venue de Jean avait été prédite plus de 700 ans avant par un autre prophète qui disait « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée, ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant tout homme la verra. » Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Ou dans une autre version, la bouche de l'Éternel a parlé. C'est Ésaïe 40, versets 3 à 5 que je viens de lire. Ce passage montre le plan de Dieu en action. Sachant que Dieu a choisi Jean pour être son ambassadeur de choix, pour proclamer sa propre venue. Déjà, la naissance de Jean avait été miraculeuse. Il est né de parents âgés qui n'avaient jamais pu avoir d'enfant. Luc 1, verset 7. L'ange Gabriel a annoncé à Zacharie, un prêtre lévite, descendant d'Aaron, qu'il aurait un fils. Zacharie n'y a d'abord pas cru, et il est resté muet pendant un temps à cause de ça. On lit ça dans les versets 8 à 18 de Luc 1. Mais Gabriel a dit au sujet de Jean, accrochez-vous, « Il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Versets 15 et 17. Ça claque comme avenir. Imaginez un ange qui dit ça. Imaginez qu'on vous annonce ça. Voilà ce qui va se passer. C'est... Du coup, je me suis demandé, qu'est-ce que nous pourrions discerner pour nos enfants ? Alors, vous avez certainement des enfants qui sont plus âgés que les miens, les deux ados là-bas. Mais même pour nous, on peut se poser la question, parce qu'il n'est jamais trop tard, qu'est-ce que Dieu a comme plan pour moi ? Pour lui, pour elle. Il ne s'agit pas de dire ce que nous souhaiterions, mais qu'est-ce que Dieu veut nous montrer ? Qu'est-ce qu'on discerne ? Et comment on discerne ce plan, ces actions que Dieu a prévues dans nos vies. Et je ne dis pas non plus que nous devons absolument connaître notre avenir pour l'accomplir, mais je crois que nous devons garder à l'esprit que Dieu a des plans pour nous, ça c'est déjà certain, mais comment les discernons-nous ensemble et comment les accomplissons-nous ? Comme prédit par le Seigneur, la femme de Zacharie, Élisabeth, donne naissance à Jean. Lors de la cérémonie de circoncision, Zacharie lui a dit au sujet de son fils « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Verset 76. Et ça, c'est qu'un tout petit extrait de tout ce que Zacharie dit sur son fils. Et c'est impressionnant. Et j'ai été interpellé par cette proclamation d'un père envers son fils. Moi, je suis plutôt papa poule. Alors non mes fils, je vous envoie pas vers des difficultés, vers les moqueries, etc. Je cherche plutôt à vous protéger dans un cocon. Mais attends, Jonathan, qu'est-ce que Dieu a prévu pour tes fils en fait ? Et toi, qu'est-ce que tu voudrais empêcher ça par ta propre volonté ? Peut-être que la volonté de Dieu n'est pas toujours claire, à nous de bien la chercher, mais peut-être que quand elle l'est, j'ose pas m'y engager, ni encourager quelqu'un d'autre à s'y engager. En tout cas, j'avoue que c'est une difficulté pour moi. Parfois, les choses sont claires. Et là, bien sûr que nous devons nous avertir les uns les autres. Mais si la personne en face agit avec conviction parce qu'elle entre dans les plans de Dieu, est-ce que je vais l'encourager, même si je pense autrement ? Est-ce que je vais laisser Dieu modifier mes pensées ? Comme Zacharie, qui était d'abord incrédule, quand l'ange a annoncé qu'il sera père, mais ensuite il bénit son fils pour qu'il entre dans les plans de Dieu et d'une manière extraordinaire, comme on peut le lire dans la Bible. Je vous envoie plein de questions ce matin, hein. Je vous laisse en faire ce que vous voulez, examiner toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais est-ce que je vais laisser Dieu modifier mes pensées ? Alors, revenons un peu à Jean. Lors de sa circoncision, 8 jours après sa naissance, on a voulu lui donner le même nom que son père, Zacharie. Normal, tradition. Mais là, c'est sa mère, Élisabeth, qui a dit non, il s'appellera Jean, parce qu'elle voulait suivre l'ordre de Dieu de l'appeler comme ça. Elle aussi a été obéissante. Jean-Baptiste était de la famille de Jésus, du fait que leurs mères respectives étaient parentes. On lit ça dans Luc 1, verset 36. Et lorsque l'ange Gabriel a dit à Marie qu'elle était enceinte de Jésus, il lui a aussi parlé de Jean. Lorsque Marie portait Jésus dans son ventre, elle a visité Élisabeth, et Jean a tressailli de joie au son de la voix de Marie. On lit ça dans Luc 1, verset 39 à 45. Et c'est marrant cette connexion avant même la naissance des deux. Après, on ne sait rien de l'enfance de Jean. La Bible dit que Marie et Élisabeth étaient parentes, et apparemment c'est l'islam qui atteste que Jésus et Jean sont même cousins. On peut imaginer en tout cas que Jésus et lui se voyaient de temps en temps. On ne sait pas quand a commencé le ministère de Jean exactement, mais on peut imaginer qu'il y avait une relation déjà avant entre Jésus et Jean. En tant qu'adulte, Jean a vécu une vie très rude dans les régions montagneuses de la Judée, donc entre les villes de Jérusalem et de la Mer Morte. Il portait des habits faits de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour de la taille, la tenue typique d'un prophète. Son régime était très spartiate, c'était des sauterelles et du miel sauvage. Matthieu 3, verset 4. Jean vivait une vie simple et se concentrait sur l'œuvre du royaume, c'était annoncer la venue du Messie et dire au peuple de se repentir. Le ministère de Jean-Baptiste n'a cessé de croître en popularité, comme il est relaté en Matthieu 3, verset 5 à 6. Les habitants de Jérusalem et toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. On peut imaginer un mouvement de foule autour de la flamme olympique, ou d'aller écouter Jean qui dit « Repentez-vous ». Il n'y a pas beaucoup d'écrits historiques de cette époque, autres que la Bible, mais en tout cas suffisamment pour attester que Jean était renommé et qu'il faisait se déplacer des foules. D'après Luc, même les collecteurs d'impôts et des soldats venaient à lui. D'ailleurs, c'est ce qui l'a conduit en prison, puisque Hérode avait peur d'un soulèvement de la foule et de révolte. C'est Marc 6, verset 20, qui raconte que Hérode craignait Jean, car il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'écoutait, il était très embarrassé, pourtant il aimait l'écouter. Donc même le roi était touché par les paroles de Jean, mais trop embêté pour changer de vie. À nouveau, je trouve intéressant de questionner jusqu'où vont nos actions pour parler de Dieu. Alors nous ne sommes peut-être pas tous appelés à aller jusqu'en prison parce qu'on dérange l'ordre public, mais est-ce qu'on ne se freine pas trop des fois par peur? Est-ce qu'on ne loupe pas quelque chose des occasions du coup? Je ne dis pas que Jean est un exemple à suivre à la lettre. Vivre de manière aussi simple dans un désert et proclamer la vérité même si elle dérange coûte que coûte, quoique. En tout cas, sa dévotion, sa foi, son cœur de serviteur, ses pensées tournées uniquement pour accomplir le plan de Dieu, ça, c'est exemplaire. Alors, parlons un peu baptême, forcément. Être baptisé par Jean signifiait admettre son péché et s'en repentir. À cette époque, et encore aujourd'hui, ce n'est pas inné de comprendre que nous sommes pécheurs et que nous devons nous repentir. On notera que Jésus n'a pas encore dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu 28, verset 19 à 20. Jésus n'a pas encore dit ça. Mais le baptême était déjà un signe d'une prise de conscience du péché, de la volonté de changer de vie, pour se conformer à ce que Dieu a prévu de bon pour nos vies, et de témoigner cela publiquement, et suivre cet engagement toute notre vie. Et Dieu interpelle encore aujourd'hui, en utilisant des Jean-Baptiste, des Étienne, peut-être des Jonathan, des Christian, des Jean-Louis. Je ne vais pas citer le nom de tout le monde parce que je ne les connais pas, mais vous pouvez chacun mettre votre nom. Dieu t'utilise encore, toi, aujourd'hui, pour proclamer son salut, non ? Si ? On peut tous imaginer cette scène, donc un peu plus loin, de Jean dans la rivière du Jourdain, qui baptise les personnes, qui confessent publiquement leurs péchés et leur volonté de changer de vie. On peut aussi imaginer les personnes sceptiques sur le bord de la rivière, qui regardent et qui pensent que ce sont des foutaises, ou qui pensent que ça ne les concerne pas. Elles devaient peut-être même très probablement se moquer en se croyant supérieures. Beaucoup s'auto-proclament justes, car ils ne se considéraient pas comme pécheurs. La Bible parle des pharisiens et des sadducéens, par exemple. Pour eux, Jean avait des paroles très sévères. Il les appelait « race de vipère ». Matthieu 3, versets 7 à 9. « Race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude et ne vous avisez pas de dire en vous-même « nous avons Abraham pour ancêtre ». En fait, là, Jean les avertissait d'arrêter de faire les fiers à cause de leur lignée juive pour leur salut, mais qu'ils avaient aussi besoin de se repentir. Il était donc plein d'assurance et de courage et sans peur pour proclamer la vérité. Il discernait aussi le fond du cœur des religieux qui n'adoraient Dieu qu'en apparence. Et puis boum, tiens, prends-toi cette vérité dans ta face, toi l'hypocrite. C'est hyper violent en fait quand il disait ça à l'époque. Mais c'est surtout fort et plein de bon sens. Est-ce que notre discours, à nous, bouscule aussi parfois ? Mais est-ce qu'il bouscule parce qu'il est juste ? Allez, je vais oser vous parler d'une vidéo que j'ai regardée, alors ça date un petit peu, mais c'est sur une chaîne YouTube, je ne sais pas si vous regardez des fois, mais elle a été créée par des jeunes pasteurs, ça s'appelle Sans Filtre, alors moi je la trouve sympa, elle aborde pas mal de thèmes, et sans forcément être d'accord avec tout, je trouve qu'elle proclame des choses, même les choses les plus importantes sur Dieu. En tout cas, ils osent parler, ils osent interviewer. Et la dernière que j'ai regardée, il y a une ou deux semaines, il y avait même quelqu'un de non-croyant qui participait à une interview, à des échanges. Voilà, donc ils osent. Moi, je trouve ça sympa. Bon, en tout cas, j'ai regardé une vidéo qui parlait des tatouages et de ce que Dieu en pense. Tatouages. Je ne vais pas ouvrir le débat sur ça maintenant. On pourra en parler après, si vous voulez. Surtout que moi, je n'étais pas en phase avec tout ce qu'il disait dans la vidéo. Mais je pense que peut-être parfois le discours a été trop violent de dire « un chrétien ne peut pas être tatoué, point barre ». En tout cas, c'est ce qu'il disait aussi dans la vidéo. Ouais, mais si il était tatoué avant de rencontrer Jésus, avant de se convertir, est-ce que du coup, il doit faire tout effacer ? Est-ce qu'avoir un discours trop ferme ou trop fermé est toujours juste ? Parfois oui, c'est clair. Je pense, en tout cas moi, sur certains points. Parfois, peut-être pas. À mon sens, il vaut mieux discuter de la situation avec la personne, l'aimer avec ses différences, comme Dieu nous a aimés, et l'encourager à vivre une vraie relation avec Dieu. Jean proclamait quelque chose de radical. Et le message de l'Évangile est radical. Et il reste le même aujourd'hui. C'est « repentez-vous ». Et croyez en Jésus-Christ, Dieu Sauveur. Je pense que la manière de le proclamer, ce message, doit s'adapter. Les coups de Bible, c'est pas toujours la meilleure méthode. Surtout si les coups de Bible ne sont pas inspirés de Dieu. Et il y a plein de sujets sensibles qui font des dégâts, à mon sens, non pas à cause de la radicalité du message, mais à cause de la manière dont les choses sont dites. Avec une tentative d'imposer à l'autre ma doctrine. La Bible est la parole de Dieu. C'est pas du tout la Bible que je remets en cause, mais c'est notre manière parfois de l'interpréter et de vouloir coller cette manière-là à tout prix aux autres. En tout cas, dans l'église à Ingersheim, on a quelques sujets chauds, et je peux vous dire que c'est la manière dont chacun l'interprète et veut l'imposer à l'autre qui pose problème. C'est pas le fait d'avoir des points de vue différents, au contraire. Et donc, avec les anciens, on a eu beaucoup de dialogues et de réflexions avec certaines personnes pour leur proposer des endroits où on peut discuter de ces sujets-là. On peut en parler, mais avec bienveillance, avec écoute, avec respect, et pas de manière forcée, et puis de dire « de toute façon, moi j'ai raison, vous avez tort ». Voilà. Vous avez aussi des sujets un peu brûlants ? Ouais, j'imagine. Revenons-en à Jean-Baptiste. L'opinion générale sur lui était qu'il était un prophète de Dieu, Matthieu 14, verset 5. Et beaucoup de gens ont dit qu'il était le Messie. bien que lui-même affirmait que non. C'était pas son intention qu'il le croit, du fait qu'il avait une vision lui bien claire de son appel. En Jean 3, verset 28, il dit « Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Jean avait bien mis en garde ses disciples en disant que ce qu'ils avaient vu et entendu de lui n'était que le commencement du miracle qui devait prendre la forme de Jésus-Christ. Jean n'était qu'un, entre guillemets, messager venu de Dieu pour proclamer la vérité. Son message était simple et direct, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 3, verset 2. Il savait qu'une fois que Jésus apparaîtrait sur le devant de la scène, l'œuvre de Jean serait loin d'être finie. Il a volontairement cédé le premier rôle en disant « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jean 3, verset 30. Et ça me touche aussi. À la fois, nous sommes appelés à être témoins, des témoins même percutants, alors pas violemment, mais qui font bouger, réfléchir, mais aussi à savoir se retirer pour que Jésus grandisse. En fait, c'est son royaume à lui, c'est son Église, et c'est son œuvre en chacun. Parce que pour moi, c'est ça l'Église de Dieu, c'est ce que chacun de nous croyants, nous dégageons de l'amour de Christ, c'est ça l'Église. Nous sommes appelés à être son outil pour un temps. Peut-être qu'on sème ou qu'on arrose, mais c'est de toute façon Dieu qui fait pousser. Et peut-être n'y a-t-il pas de meilleur exemple d'humilité que celle démontrée aussi bien par Jésus que par Jean en Matthieu 3, versets 13 à 15. Jésus est venu de Galilée pour être baptisé par Jean dans le Jourdain. C'est un moment très très fort entre les deux hommes, et donc pour nous aussi. Jean a reconnu avec justesse que le Fils de Dieu n'avait pas besoin d'un baptême de repentance, et que lui, Jean, n'était certainement pas digne de baptiser son propre sauveur. Mais Jésus a répondu au verset 15, « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. » Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Donc « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. » Jésus répond à l'appréhension de Jean en lui demandant le baptême pour qu'ils accomplissent ensemble la volonté de Dieu. Donc Jésus lui demande d'accepter de faire quelque chose qui lui semble absurde et pas juste, mais la volonté de Dieu est tout autre que sa pensée. Et c'est la volonté de Dieu avant. Dans l'humilité, Jean a obéi et a consenti à baptiser Jésus, et quand Jésus est sorti de l'eau, je cite, « Les yeux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'était le verset 16 à 17. Quelle révélation pour Jean! L'obéissance peut certainement nous amener à voir des choses magnifiques aussi. Plus tard, nous savons que le roi Hérode a mis Jean-Baptiste en prison. Hérode s'était marié avec l'ancienne femme de son frère Philippe. Jean lui a bien dit que ce mariage n'était pas acceptable et ça ne plaisait pas du tout à Hérodiade, la nouvelle femme d'Hérode, qui avait trouvé un bon parti pour elle. On lit ça dans Luc 3, verset 19 à 20, ou Marc 6, verset 17 à 20. Tandis que Jean est en prison, il a entendu parler des choses que faisait Jésus. Et dans ce qui peut paraître un moment de doute, il a envoyé ses disciples demander à Jésus s'il était bien le Messie. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a troublé, ça. Après tout ce qu'ils ont vécu, Jean-Baptiste en prison, il a un doute. Jésus a demandé à ses hommes de répondre à Jean en disant ce qu'ils voyaient, en disant ce qu'ils entendaient, c'est-à-dire en fait toutes les prophéties qui s'accomplissent. Jésus n'a pas réprimandé Jean, lui reprochant ses doutes, mais il lui a plutôt donné des preuves qu'il était bien le Messie promis. Matthieu 11, verset 2 à 6 et Luc 7, verset 18 à 23. Qui de nous n'a jamais douté? Qui a parfois bien besoin que Jésus vienne lui prouver qu'il est bien son sauveur? Jésus a ensuite parlé à la foule à propos de Jean, disant qu'il était le messager prophétisé par Ésaïe, celui qui viendrait avant le Messie. Matthieu 11, 10, Luc 7, verset 27, on peut le voir aussi dans Malachi 3, verset 1. Et Jésus a ajouté, « Je vous le dis, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Matthieu 11, 11 ou Luc 7, verset 28. Alors, je ne sais pas où, mais alors... Est-ce que ce n'est pas une parole de Jésus percutante? Je ne sais pas comment vous arrivez à comprendre ça. Moi, je me sens tellement petit devant un prophète comme Jean-Baptiste qui était aussi engagé, aussi zélé, courageux. Mais Jésus dit que le plus petit dans son royaume est plus grand que lui. Dieu ne mesure vraiment pas comme moi, et c'est lui qui mesure juste. Le ministère de Jean-Baptiste, de même que sa vie, ont connu une fin brutale aux mains du roi Hérode. Dans un acte de vengeance inqualifiable, Hérodiade a comploté avec sa fille pour obtenir la mort de Jean. Vous connaissez sûrement l'histoire. La fille d'Hérodiade a dansé un soir tellement bien pour Hérode et pour ses hôtes qu'il lui a promis de lui donner tout ce qu'elle voudra. On lit ça en Marc 6. La jeune fille s'est concertée avec sa mère avant de répondre qu'elle désirait la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Verset 25. Je ne sais pas si vous auriez demandé la même chose. Et elle l'a eu, puisque lui ne pouvait pas revenir en arrière sur son serment, bien que cela l'attristât. Mais quelle fin triste et ignoble pour un homme aussi saint, aussi... Les leçons à retirer de la vie de Jean-Baptiste sont nombreuses, et je vous laisse le soin de retenir chacun ce qui vous interroge ou bouscule, ce qui interroge et bouscule aussi votre vie. Je vous encourage à relire ces textes qui parlent de la vie de Jean-Baptiste. Au-delà du simple récit, c'est comprendre les motivations de cet homme, et d'ailleurs de tous les hommes et de toutes les femmes exceptionnelles dont l'histoire est contée dans la Bible. Ce que moi j'en retiens, entre autres, c'est déjà que croire en Jésus-Christ doit nous donner des ailes pour proclamer cette bonne nouvelle. Jean savait que le Messie arrivait. Il y croyait de tout son cœur. Et il avait passé des jours et des jours à préparer le chemin pour la venue du Seigneur. Mais la route n'était pas un chemin facile à préparer. Il devait quotidiennement faire face à des sceptiques qui ne partageaient pas son enthousiasme pour la venue du Messie. Aux questions des pharisiens, Jean a affirmé « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Jean 1, verset 26 à 27. Jean croyait au Christ, et sa grande foi l'a maintenu sur la bonne voie jusqu'au moment où il a pu dire, quand Jésus s'approcha de lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, verset 29. Et même après. Et nous savons que le Messie, le Sauveur, est venu en la personne de Jésus-Christ. Et qu'il reviendra. En tant que croyants, nous pouvons tous avoir cette foi constante, cette ferme assurance et ce zèle pour le dire. On ne sait pas ce que Jean ressentait pendant qu'il croupissait en prison. Il a certainement eu quelques doutes. Mais Jean a fait envoyer un message à Jésus pour connaître la vérité. En tant que chrétien, notre foi sera aussi mise à l'épreuve. Mais accrochons-nous et cherchons la vérité, comme l'a fait Jean, pour tenir ferme dans notre foi jusqu'à la fin. Dieu ne nous lâchera pas. Il a prévu des plans pour nous. Et étant toujours plus en relation avec lui, nous les découvrirons ou nous les redécouvrirons et nous les accomplirons avec foi et courage. Amen. La vie de Jean est un exemple pour nous du sérieux avec lequel nous devons aborder notre vie chrétienne et notre appel du ministère, quel qu'il puisse être. Jean a mené une vie centrée sur la présentation de Christ aux autres. Il se concentrait sur la mission que Dieu lui avait donnée. Jean savait aussi la conviction de vivre une vie sainte et juste. Et en tant que serviteur de Dieu, il n'avait pas non plus peur de dire la vérité, même lorsque cela exigeait du courage et de la fermeté. Jean a reçu un ministère unique. Cependant, nous aussi, nous sommes appelés à partager la vérité de Jésus Sauveur aux personnes autour de nous. Nous pouvons imiter la confiance fidèle et obéissante de Jean en proclamant la bonne nouvelle du salut dans toutes les circonstances que Dieu nous donne de vivre, nous pouvons être sûrs de son amour, l'amour de Dieu. Nous pouvons être sûrs de l'amour de Dieu pour nous, comme le disciple bien-aimé. Donc, nous ne risquons rien en fait. Ce n'est sûrement pas facile, mais c'est quand même un chemin sûr. Dieu est tellement plus grand et bon que ce que l'on peut imaginer, qu'on peut s'engager avec lui de manière sereine. Je termine avec deux passages de la Bible, 1 Pierre 3, versets 13 à 16. « Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien ? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. » Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Jésus-Christ soient couverts de honte. Et Jean 13, versets 34 à 35, qui pour moi est la meilleure méthode, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.